Le Parlement iranien met en garde contre une réponse écrasante aux mesures anti-iraniennes de l'Europe. Le ministre de la Sécurité intérieure israélien a ordonné la démolition de 14 maisons des Palestiniens dans la ville occupée de Qods. Et en France, des perturbations sont attendues mardi dans les transports. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le vice-président du Parlement iranien a mis en garde contre une réponse ferme aux pays européens s'ils s'insistent à poursuivre des politiques hostiles et agressives contre Téhéran et ne parviennent pas à rectifier leur approche vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Au cours des derniers mois, les ennemis de la nation iranienne ont eu recours à une guerre hybride pour déformer les réalités de la République islamique. Maintenant qu'ils ont lamentablement échoué à atteindre leur objectif, ils tentent de faire pression sur l'Iran au niveau international à travers divers scénarios politiques, a déclaré dimanche 29 janvier Ali Nikzat. Il a ajouté que l'Europe devrait savoir que le fait de se conformer complètement aux exigences des États-Unis dépouillera davantage l'Union européenne de sa dignité et de sa crédibilité auprès de l'opinion publique mondiale. Nous conseillons aux Européens de revenir à la raison et de ne pas sacrifier leurs intérêts au profit des désirs américains. Quant à la tentative de l'Europe d'ajouter le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI à sa liste terroriste, Nikzat a souligné que le CGRI est une force militaire officielle et que l'Iran répondra certainement à toute tentative désespérée et imprudente à cet égard. Les hommes et les femmes d'État européens devraient se souvenir de l'époque où ils étaient hantés par la peur des terroristes Daesh, puis être reconnaissants pour les sacrifices consentis par les forces héroïques du CGRI, a déclaré Nikzat. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que son homologue qatari lui avait transmis des messages des parties à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, dont le sort est dans l'incertitude depuis que les États-Unis s'en sont retirés unilatéralement en 2018. S'exprimant dimanche 29 janvier, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al-Thani, le chef de la diplomatie iranienne a salué les efforts de Doha lors des négociations multilatérales pour relancer l'accord nucléaire. Aujourd'hui, nous avons reçu des messages des parties du plan global d'action conjoint par l'intermédiaire du ministre qatari des Affaires étrangères, a-t-il déclaré sans donner plus de détails. Il a ajouté que l'Iran se félicitait des efforts du Qatar pour transmettre des messages ou des initiatives visant à aider les parties du plan global d'action conjoint à résoudre les problèmes restants et à faire lever les sanctions américaines. En réponse à une question sur les pressions économiques américaines contre l'Iran, Amir Abdollahian a déclaré « Malheureusement, le terrorisme économique contre les pays indépendants est à l'ordre du jour des États-Unis ». L'Iran a utilisé diverses méthodes pour neutraliser les sanctions et continuera à le faire. Nous continuerons à travailler avec nos amis régionaux pour contrer ces mesures improductives, qui sont en fait une violation systématique des droits de l'homme, ajoutait le chef de la diplomatie iranienne. Pour sa part, le ministre qatari des Affaires étrangères a confirmé avoir transmis à son homologue iranien des messages de différents partis au plan global d'action conjoint sur diverses questions. Le Qatar estime que le moment est venu de régler les questions relatives à la relance du PEGAC et de préparer le terrain pour que les parties parviennent à un accord final, a déclaré Al-Thani. Il a annoncé avoir transmis des messages des États-Unis à l'Iran, ajoutant que son pays poursuivrait ses efforts pour dissiper les malentendus entre les parties de l'accord nucléaire et leur retour à leurs engagements. Le Qatar cherche à promouvoir la stabilité régionale et la relance du PEGAC qui joue un rôle important à cet égard, a déclaré le ministre qatari. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie iranienne a également déclaré que l'Iran avait toujours accueilli favorablement le dialogue entre les pays de la région, soulignant que les négociations étaient essentielles pour promouvoir une coopération durable dans la région. Nous pensons que le dialogue et la coopération peuvent être des moyens exclusifs et efficaces pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la sécurité collective régionale, a-t-il déclaré. Il a noté que Téhéran et Doha ont une position commune sur la nécessité d'accélérer l'expansion des relations et de supprimer tout obstacle éventuel à cet égard. Dans la continuité de ses actions provocatrices, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure du cabinet israélien, a ordonné la démolition de 14 maisons des Palestiniens dans la ville occupée de Rots. La maison de Mohamed Rat Matar, un citoyen palestinien à Rots, a été démolie sous prétexte d'être construite sans autorisation dans la localité de Jabel Moukaber, située au sud-est des territoires occupés. Auparavant, les médias du régime sioniste avaient annoncé qu'Itamar Ben-Gvir avait décidé de détruire le village palestinien d'Al-Khan al-Ahmar à Rotzest. Cette décision de Ben-Gvir s'inscrit dans la nouvelle série d'actions et d'agressions des sionistes avec la mise en place du cabinet d'extrême droite du premier ministre du régime sioniste Benjamin Netanyahou. Ces derniers jours, les territoires palestiniens occupés ont assisté à l'escalade de la tension suite aux agressions quotidiennes des sionistes et à la riposte de la résistance palestinienne. L'opération martyre du combattant palestinien Khaïli Al-Akb dans la ville occupée de Rots a été menée vendredi soir, tandis que la Cisjordanie a été témoin jeudi de l'attaque de l'armée du régime sioniste contre la ville de Jenin. Un nouveau crime israélien au cours duquel 11 citoyens palestiniens ont été tombés en martyr et au moins 20 autres ont été blessés. Des sources israéliennes ont également fait état samedi d'une deuxième opération antiterroriste en réponse aux crimes sionistes à Jenin, dans le quartier de Silvan de la ville occupée de Rots, suite à laquelle deux sionistes ont été blessés. Depuis que les jeunes Palestiniens en Cisjordanie se sont armés avec des armes à feu, les soldats israéliens sont constamment dans une détresse croissante de peur d'être la cible d'une attaque commando. Lors de la 17e session de la Conférence des conseils de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui s'est tenue dimanche 29 janvier à Alger, capitale algérienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que la cause palestinienne resterait la priorité des priorités de la nation musulmane. Il a appelé l'Organisation de la coopération islamique et l'Union des parlements des pays membres à redoubler d'efforts pour mobiliser davantage de soutien politique et matériel au profit du peuple palestinien pour lui permettre de résister face aux crimes systématiques dont il est victime, notamment devant l'obstination du régime sioniste qui persiste dans ses graves violations à travers l'expansion de ses colonies ou encore sa dernière exaction au cours de laquelle il a profané la mosquée Al-Aqsa. Le président Tebboune a assuré que l'Algérie œuvrera avec les frères dans le monde musulman et avec tous les pays qui défendent le droit et la liberté dans le monde à l'adhésion à part entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. Dimanche soir, les réunions de la 17e session de la conférence des parlements de l'ECI ont débuté dans la capitale algérienne avec la participation des chefs de parlement de plusieurs pays musulmans. Les réunions de deux jours porteront sur plusieurs questions relatives au monde musulman, dont la principale pivote autour de la cause palestinienne. Les forces de sécurité somaliennes ont tué 136 terroristes Shebab, dont trois commandants, lors d'une opération spéciale lancée samedi soir dans le sud de la Somalie, a annoncé dimanche un responsable gouvernemental. Le vice-ministre de l'information, Abdirahman Youssef Al-Adallah, a déclaré que les forces gouvernementales avaient conduit une opération conjointe dans une zone forestière abritant des terroristes près de la ville de Janal. Une centaine de terroristes Shebab ont été blessés au cours d'une opération bien coordonnées. Le gouvernement s'est engagé à éradiquer les terroristes dans tout le pays, a déclaré Al-Adallah aux journalistes à Mogadiscio, la capitale somalienne. Il a indiqué que les trois commandants tués dans l'opération étaient en charge des attaques de guérilla et d'autres activités terroristes dans la région du Bas-Chabel. En France, la grève devrait être encore très suivie mardi 31 janvier dans les transports publics pour la deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites avec des perturbations à prévoir dans toute la France du TGV au TER et RER dans le métro parisien et à l'aéroport d'Orly. Fort du succès de leur première journée d'action du 19 janvier, les 8 principaux syndicats ont appelé à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier contre une réforme qu'ils qualifient d'injuste. La première journée d'action avait réuni dans la rue 1,12 million de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions d'après les organisateurs. Ce jour-là, la grève avait notamment été très suivie dans les transports avec quasiment aucun train régional, peu de TGV, un métro tournant au ralenti à Paris et une grande banlieue très peu desservie. Mardi, les voyageurs doivent s'attendre à de nouvelles galères, avec notamment un trafic fortement perturbé sur les TGV. Seulement un train sur trois en moyenne sur les rails. Les prévisions sont globalement similaires à celles du jeudi 19 janvier, a résumé dimanche la SNCF à l'AFP. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre US-Chine. L'armée américaine n'est pas prête. Avec le président Joe Biden à la Maison-Blanche, le risque d'un conflit entre la Chine et Taïwan est très élevé. C'est ce qu'a averti le congressiste Michael McCaul. Ce dernier a affirmé dimanche 29 janvier sur Fox News que l'armée américaine n'était pas prête à mener une guerre avec la Chine et qu'elle pourrait manquer de missiles de précision et de technologies de pointe en moins d'une semaine si la guerre éclatait. Nous devons nous préparer à cela, et cela pourrait arriver, je pense, tant que Biden est au pouvoir, postant une faiblesse comme il a fait avec l'Afghanistan, qui a conduit Poutine à envahir l'Ukraine. Les risques d'un conflit avec la Chine et Taïwan et l'Indo-Pacifique sont très élevés, a déclaré McCaul. Vendredi 27 janvier, un général 4 étoiles de l'US Air Force, Mike Minyan, a envoyé aux officiers qu'il commande une note de service qui prédit que les États-Unis seraient en guerre avec la Chine dans 2 ans. Il a déclaré que les élections présidentielles à Taïwan et aux États-Unis en 2024 pourraient donner au président chinois Xi Jinping une opportunité. Le mémo signé est adressé à tous les commandants des escadres aériennes Velechkon. McCaul a également déclaré que les États-Unis pourraient manquer d'armes avancées en moins d'une semaine si les États-Unis lançaient une guerre contre la Chine. Selon une récente étude du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, les États-Unis seraient probablement à court de certaines de leurs munitions, y compris celles à longue portée et à guidage de précision, en moins d'une semaine en cas de conflit dans le détroit de Taïwan. La base industrielle de défense américaine n'est pas suffisamment préparée pour l'environnement de sécurité compétitif qui existe actuellement. Elle fonctionne actuellement à un rythme mieux adapté à un environnement en temps de paix, a estimé le groupe de réflexion dans son rapport. L'aide militaire américaine à l'Ukraine a épuisé les stocks d'armes du département américain de la défense et mis au grand jour les difficultés que la base industrielle américaine pourrait rencontrer pour fournir des munitions pour une guerre majeure. « Notre base de défense industrielle est brisée », a déploré McCaul. « J'ai signé il y a 3 ans toutes les ventes d'armes militaires à l'étranger. Ils doivent encore se rendre à Taïwan. Nous avons donc besoin de cette dissuasion. Mais si nous n'avons pas les armes, c'est tout aussi essentiel pour la dissuasion. » Washington est le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de Taïwan, malgré l'absence de relations diplomatiques formelles. Les ventes d'armes américaines à Taïwan s'avèrent une source de provocation pour les relations sino-américaines qui sont d'ailleurs détériorées ces dernières années. Les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de l'île de Taïwan se sont intensifiées à la suite d'une visite provocatrice en août de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Cela a provoqué des exercices militaires chinois à grande échelle autour du territoire insulaire ainsi qu'une déclaration du président américain Joe Biden pour défendre Taïwan. Sa visite a exaspéré la Chine, qui a la souveraineté sur le Taipei chinois. Pékin a déclaré publiquement qu'il pourrait le prendre par la force un jour, si nécessaire. Dans le cadre de la politique une seule Chine, presque tous les pays du monde, y compris les États-Unis, reconnaissent la souveraineté de Pékin sur le Taipei chinois. Washington, cependant, est entré en contact direct avec le gouvernement sécessionniste de Taipei, en violation de sa propre politique déclarée. Les États-Unis fournissent également à Taipei des quantités massives d'armement.